Fréquence protestante. La valeur de l'homme. Emmanuel Taïeb.
Un couple impossible, la Syrie et la France. Bonjour à tous et toutes. La France regarde souvent vers l'Orient. De Louis XIII à Napoléon, de Chirac à Hollande, pour le meilleur comme pour le pire, le Proche-Orient constitue pour notre pays un terrain diplomatique central. Parfois pour impulser un processus de paix régionale toujours fragile, ou pour tenser des régimes autoritaires, et d'autres fois, souvent, pour défendre le Liban face à la Syrie, son encombrant voisin. C'est que la France a détenu un mandat sur ces territoires à l'issue de la Première Guerre mondiale, et que leur destin semble la concerner toujours. La relation entre la France et la Syrie a son histoire propre, qui ne doit pas tout aux pays limitrophes. Depuis les années 40, les chefs d'État français et syriens tentent de nouer une relation bilatérale exclusive qui connaît des hauts et des bas. Il se déploie entre les deux pays une activité diplomatique intense, des liens de coopération, mais aussi des jeux complexes à plusieurs bandes, où chacun utilise l'autre dans un agenda politique qui n'engage que lui. La Syrie, par exemple, pourra jouer de sa proximité avec la France pour réduire l'influence américaine dans la région. Et la France jouera de sa proximité avec la Syrie pour peser sur les situations libanaises et israéliennes et rappeler qu'elle a son mot à dire au Levant. Mais ce poker menteur peut vite devenir illisible. Les acteurs politiques français se perdent dans leurs lectures successives de la situation ou s'aveuglent sur la nature du régime syrien qui, en 70 ans, n'aura su ni se démocratiser ni être favorable à un apaisement des conflits locaux. La tragédie syrienne, qui a vu Bachar al-Assad devenir le bourreau de son propre peuple, est là pour en témoigner chaque jour. À quoi ressemble la relation entre la France et la Syrie ? Comment des événements majeurs comme les attentats du 11 septembre, l'assassinat de Rafik Hariri ou le printemps arabe la mettent-ils à l'épreuve ? Je poserai ces questions éminemment politiques à mon invité Manon Nour Tanous. Bonjour Manon Nour Tanous.
Bonjour.
Manon Nour Tanous, vous êtes docteur en relations internationales et chercheuse associée à la chaire d'histoire contemporaine du monde arabe au Collège de France. Vous êtes également intervenante à Sciences Po Paris. Le livre pour lequel je vous reçois aujourd'hui s'intitule « Chirac, Assad et les autres, les relations franco-syriennes depuis 1946 ». Il est paru au PUF il y a quelques jours, le mois dernier, au mois d'octobre 2017. Alors Manon Nour Tanous, vous avez travaillé sur la relation bilatérale, c'est comme ça que ça s'appelle, entre la France et la Syrie. Et en général, au-delà de ce cas-là, quels sont les enjeux des relations bilatérales entre États ?
Alors oui, c'est vrai que je me suis concentrée sur une relation bilatérale qui peut être présentée comme une relation banale. C'est une relation entre deux États, entre deux administrations. C'est un peu délaissé d'ailleurs dans l'intérêt qu'on a aujourd'hui pour les relations internationales. Où on dit qu'elles sont beaucoup plus complexes, donc étudier un face-à-face entre deux pays ne suffit pas. Moi, j'y ai trouvé un intérêt réel parce que je trouve que c'est un point d'observation, d'enjeu, un point qui révèle une époque. Alors, pour le cas franco-syrien, étudier une relation entre Paris et Damas, c'est aussi comprendre le conflit israélo-arabe sous un autre angle, comprendre l'enjeu libanais sous un autre angle. Donc, pour moi, c'est vraiment un point d'observation qui permet de saisir des enjeux plus larges.
Mais en réalité, donc les États, à côté des relations internationales à plusieurs, des relations multilatérales, il y a des relations bilatérales. À quoi elles servent ? Pas seulement sur le cas franco-syrien, mais ces relations bilatérales, par exemple, c'est pour traiter des dossiers communs, de la coopération. Qu'est-ce qu'on y fait, Manon Nour Tanous ?
Alors, elles peuvent être de plusieurs degrés. Ça peut être parfois simplement de nouer une relation avec un autre pour traiter des dossiers qui incluent plusieurs acteurs. On le verra sans doute, en particulier le cas de la Syrie. Ça peut être de traiter des dossiers communs en particulier, politiques, culturels, économiques. Souvent, on voit que c'est un des éléments d'un réseau plus large, comme le couple franco-allemand dans le cadre européen. Donc, on tisse une série de relations bilatérales qui vont donner un poids aux deux pays dans un ensemble qui est plus large et dans lequel ils pourraient être noués s'ils n'avaient pas cette notion de couple qui les renforce.
Alors, dans le cas de la relation franco-syrienne, vous expliquez dans votre ouvrage, Manon Nour Tanous, que c'est une relation, je l'ai rappelé un peu dans ma prise de parole liminaire, qui sert des objectifs indirects. Donc, on crée une relation bilatérale, mais qui va servir autre chose que cette relation bilatérale, par exemple. Alors, qu'est-ce que ça peut servir comme objectif indirect ?
Alors, pour la France et la Syrie, oui, ça sert toujours, dans ce que j'ai observé sur le temps long, des objectifs qui vont être de l'ordre du régional. Donc, la France, dans son ensemble européen occidental, compte. La Syrie, au Moyen-Orient, compte. Le face-à-face intéresse peu les deux acteurs. Donc, il n'y a pas de dossier politique entre la France et la Syrie. Mais chacun va utiliser l'autre pour avoir un poids dans la région. Donc, par exemple, je cite le premier exemple important du livre, je pense, c'est la crise de 96, où Israël envahit le sud du Liban. Jacques Chirac envoie tout de suite son ministre des Affaires étrangères dans la région. Le QG des Français est à Damas à l'époque. Et avoir cette relation forte avec Hafez al-Assad va permettre à la France d'être une des parties qui va proposer une solution au conflit à égalité avec les Américains, ce qu'elle n'avait jamais obtenu. Et inversement, pour les Syriens, ça va permettre d'obtenir un accord qui sera, à leurs yeux, plus pro-arabe qu'un accord uniquement parrainé par les Américains. Donc chacun a utilisé l'autre, instrumentalisé l'autre pour avoir un rôle dans une crise symbolique majeure.
Et dans une crise locale. Il y a quand même souvent l'idée qu'il s'agit aussi de créer un pôle capable, politiquement ou diplomatiquement, de faire pièce aux Américains, ou en tout cas de limiter leur influence. Donc il y a aussi un jeu un peu subtil là entre la France et la Syrie pour exister comme acteur, par exemple, d'une résolution de conflit, à côté ou sans ou contre les Américains. C'est quand même ça l'enjeu indirect.
Oui, alors la présence américaine est constante. Dans les télégrammes diplomatiques, on retrouve du côté français l'idée d'écorner le monopole américain dans la région, dans les années 90-2000. Et en fait, on se rend compte que dans cette relation bilatérale, il y a toujours un troisième homme, un troisième acteur derrière le rideau. C'est très souvent les Américains. C'est parfois aussi le Liban, parmi les acteurs locaux. Mais c'est vrai que les deux acteurs, à la fois la France et la Syrie, sont obsédés par ce que peuvent faire les Américains, par leur volonté politique dans la région. Et avoir noué cette relation, en particulier Chirac-Assad, va permettre de peser face à la volonté américaine.
Vous, dans vos sources, pour les indiquer un peu pour les auditeurs sur comment on travaille sur une relation bilatérale, vous avez utilisé quoi ? Des entretiens, des archives diplomatiques ?
Alors, beaucoup d'entretiens avec peut-être une centaine d'acteurs, diplomates, parlementaires, hommes politiques, quelques membres des services de renseignement. Majoritairement à Paris, j'avais fait aussi un terrain en Syrie avant la crise. Et puis, beaucoup de travail sur les archives diplomatiques. Alors qu'ils sont plus ou moins accessibles parce que je travaille sur une période très récente que j'ai complétée par un accès à des documents personnels de diplomates, donc véritablement inédits. Et ce qui permet aussi de mettre en regard leur discours a posteriori sur la crise dont ils ont été acteurs et puis ce qu'ils écrivaient à l'époque.
Ouais, le décalage entre une vision a posteriori et qui peut être... voilà, on va se rendre compte que leur lecture de la situation, on en redira un mot, n'était pas forcément la bonne...
Oui, ou ils la reconstruisent en fonction de la crise de 2011, en occultant certains aspects ou en reconsidérant leur rôle.
Alors, dans votre ouvrage, Manon Nourtanous, vous posez comme point de départ fort, c'est la relation franco-syrienne est ancienne, mais l'année 1963 peut être une année importante. C'est une année qui est marquée par un coup d'État qui permet donc au parti Baas de prendre le pouvoir. Ce parti Baas, il est aussi en Irak. Qu'est-ce qu'il incarne à ce moment-là, dans ces années 60-70? C'est un parti qui, au fond, incarne le panarabisme dans cette région-là?
Oui, alors c'est un parti qui a été fondé dans la foulée des indépendances, donc en 1947, qui était un parti nationaliste arabe, aussi inspiré du socialisme à l'époque. La séquence importante, c'est quand il prend le pouvoir dans les années 60, donc en Irak et en Syrie. En Syrie, c'est en 63, où c'est interprété a posteriori comme étant la victoire des minorités et des populations rurales sur une bourgeoisie sunnite, plutôt
urbaine,
liée à Damas et à Alep, aux grandes villes syriennes. Et effectivement, c'est vrai que ce rôle du parti Baas comme promotion des minorités qui étaient pour certaines mises à l'écart, on pense évidemment aux Alaouites en particulier, va être fondamental. Et on a une sorte de confessionnalisation qui se crée à ce moment-là, qui a été attisée par la puissance mandataire, la France, etc., mais qui se renforce dans les années 60, tout simplement sur fond d'une lutte de pouvoir. Donc Hafez al-Assad en 63, qui n'est pas encore président, mais qui est dans le premier mouvement de ce coup d'État, et ses compagnons vont utiliser à la fois l'armée et le parti comme outil de promotion sociale et sur discours, évidemment, de panarabisme et de défense de la nation arabe.
Assez vite, il y a en Syrie une forme de militarisation du pouvoir, mais ce qui veut dire aussi qu'il y a une forme de militarisation du parti Baas. C'est pas en Irak aussi, donc c'est un parti qui finalement est assez plastique pour incorporer une sorte de dimension militaire qui n'était pas donnée au départ, parce que c'est un parti qui se présente comme étant socialiste et laïque, mais qui finalement se militarise, Manon Nourtanous.
Oui, le parti va être la matrice du pouvoir en Syrie à partir de 1963 et va très bien fonctionner avec cette autre matrice qui est l'armée, qu'ont utilisé tous ces acteurs pour monter au pouvoir. Et alors petit à petit, le parti devient une coquille vide, on le voit aujourd'hui en particulier depuis la présidence de Bachar el-Assad et encore plus depuis 2011. Mais c'est vrai que l'armée a fourni des cadres aux parties basses et inversement, et puis que la plupart des acteurs centraux en Syrie étaient à la fois militaires et membres du parti. C'était deux outils parallèles d'accès au pouvoir et qui ensuite ont permis à ceux qui avaient accédé à ce pouvoir de verrouiller la scène interne et de mettre en place un régime militaire, policier, les purges qui vont avec, le culte de la personnalité qu'on connaît bien.
On va en dire un mot. Et c'était, la Syrie est en état d'urgence depuis pratiquement 50 ans. Enfin, c'est un...
Oui, depuis la guerre de 67, en fait.
Alors, justement, donc, il y a un coup d'État en 1963. Il y a au départ une espèce de gestion un peu collégiale du pouvoir, une espèce de triumvirat. Et puis, assez rapidement, il y a un homme qui émerge, vous l'avez mentionné, c'est Hafez al-Assad. Et aujourd'hui, son fils Bachar. Qui sont ces gens, Manon Nourtanous?
Alors, les Assad, c'est une famille syrienne, donc alaouite, une minorité du pays, de l'ouest de la Syrie. Donc cette communauté alaouite a été aussi favorisée, je le disais tout à l'heure, par la puissance mandataire, donc dans l'entre-deux-guerres, quand la France colonisait la Syrie. Les Assad n'étaient pas une famille particulièrement aisée. Hafez al-Assad a été l'un des premiers à aller à l'école primaire et à avoir une éducation, donc à sortir du village, à aller à l'attaquer. Ensuite, il est entré à l'académie militaire pour faire une carrière dans l'aviation. Et il est entré en même temps au parti basse, donc à sa création, juste après l'indépendance, pour devenir militant du nationalisme arabe. L'événement important pour lui, ça a été l'échec de la République arabe unie, qui est la République entre la Syrie et l'Égypte de 58 à 61, qui était un projet du panarabisme, mais qui échoue parce que pour de multiples raisons, mais aussi parce que il y avait un poids écrasant de l'Égypte dans cette alliance. Et donc, il fait le constat, comme plusieurs de ses compagnons, que le panarabisme peut se décliner en plusieurs formats. Et donc, on a des branches régionales, qu'on appelle régionales, mais qui correspondent à des pays, donc pour lui, la Syrie. Et c'est comme ça qu'il va participer au coup d'État de 63, devenir ministre de la Défense en 66. Et après le traumatisme de la guerre de 67 et une nouvelle déstabilisation, il prend le pouvoir en 70. Donc, la famille Assad est au pouvoir en Syrie depuis 70. Comme toute dictature, il va envisager sa succession. Là, je fais un peu un bond dans le temps, qui va être une succession de type familial.
Ouais, donc, dynastique.
Absolument. Donc, la Syrie est un des pays pour lesquels on parle de répu-monarchie. Donc, c'est une république, mais où on a une succession qui se transmet de père en fils. Il forme d'abord son fils aîné, Bassel, qui meurt dans un accident de voiture en 94. Et donc là, le deuxième héritier, c'est Bachar, qui est à l'époque en train de faire ses études à Londres et qui rentre à Damas pour se former, y compris prendre la formation militaire qu'il n'avait pas eue.
Il était ophtalmo ou quelque chose comme ça? Il avait fait des études de
médecine? Oui, c'était des études d'ophtalmologie.
C'est ça, d'accord. Donc, ouais. C'était pas quelqu'un qui, a priori, Bachar devait prendre le pouvoir. C'était le premier fils, Bassel, qui devait le faire. Et puis, faute de Bassel qui décède,
c'était un second choix.
D'accord.
Donc Bachar a pris le pouvoir ensuite, et en reproduisant ce schéma, puisque lui-même est entouré d'un noyau familial très restreint, on pense en particulier à son frère Maher qui gère la garde républicaine, donc il reproduit le même schéma où on a vraiment la famille comme matrice du pouvoir en Syrie.
On va écouter justement Bachar el-Assad qui était interviewé par Laurent Delahousse sur France 2 en 2008.
Monsieur le Président, vous avez fait souffler à votre arrivée au pouvoir un vent de modernité, d'ouverture. Vous avez fait vos études à Londres. Votre épouse a également vécu en Occident. Pourquoi ne pas avoir poursuivi le chemin entamé? Est-ce que vous ne voulez pas être celui qui ouvrira les portes de la démocratie dans votre pays?
Nous continuons toujours en avant, mais avec des pas bien étudiés, bien précis, qui ne seraient pas probablement des pas rapides. Notre objectif, c'est la stabilité. Nous sommes dans une région tout à fait différente par la complexité sociale, avec ses idéologies, ses problèmes et les accumulations du problème historique. Toute opération non calculée, impulsive, pourrait donner des conséquences difficiles à résoudre dans les prochaines décennies. Nous sommes toujours en avant, nous ne sommes pas reculés, nous allons en avant toujours. L'ouverture en Syrie est beaucoup plus grande de par le passé. Nous n'avons pas réalisé tout ce que nous voulons. Il y a un retard à cause des conditions politiques difficiles, l'isolement de la Syrie, les guerres perpétrées, l'extrémisme, la pauvreté, le manque du développement dans la région. Ce sont des raisons qui donnent un impact sur l'opération du progrès et de l'économie. En général, nous avons effectué des pas positifs, nous sommes au début du chemin, le chemin est très long.
La valeur de l'homme, un couple impossible, la Syrie et la France, nous sommes en compagnie de Manon Nourtanous. Alors les portes de la démocratie qu'évoque Laurent Delahousse sont restées définitivement fermées en Syrie?
Oui, alors ce qui est intéressant, et je trouve que cet extrait montre à peu près tout l'argumentaire que peuvent déployer les Syriens sur cette question-là, c'est que les exigences occidentales en termes de démocratie sont pas seulement une pression sur ces régimes, c'est aussi une ressource. Et Bachar al-Assad les a très bien utilisées en se posant comme réformateur, alors pas démocrate mais réformateur, en disant qu'il fallait du temps, là il le redit, le chemin est long, donc il fallait diminuer les pressions sur son pays, lui laisser une chance, et on voit bien comment il utilise le discours de la démocratie cher aux Occidentaux pour se poser comme celui qui va faire avancer son pays vers la démocratie. Et ça marche assez bien. Quand il arrive au pouvoir, les télégrammes diplomatiques français écrivent « Il pense comme nous pensons ».
Voilà, c'est en 99, il y a un télégramme que vous citez dans votre livre qui dit « Il pense comme nous pensons ». C'est-à-dire qu'il y a vraiment, on en reparlera, mais une illusion sur la capacité, parce qu'il est jeune et parce qu'il vient d'arriver, parce qu'il a été éduqué à Londres, de Bachar el-Assad, de réformer le pays dans une voie plus démocratique qui conviendrait davantage aux Occidentaux et qui aiderait la Syrie.
Oui, pour les Français, il a tous les attributs de la modernité, donc il a fait ses études en Occident, etc. Sa femme n'est pas voilée, il y a aussi tout cet imaginaire. Et puis l'idée aussi qu'il peut être modelé parce qu'il est jeune, parce qu'il n'était pas préparé au pouvoir depuis très longtemps, ça, chez Jacques Chirac, c'est très présent, cette idée de parrainage. Donc ces deux éléments vont faire qu'on parie complètement sur cette nouvelle présidence en pensant que le pays va s'ouvrir.
Alors, vous avez, vous, précisément travaillé, pas simplement sur la Syrie, mais sur la relation franco-syrienne. Quels sont les piliers qui ont structuré cette relation franco-syrienne? Il y avait l'idée que les deux pays pouvaient être au cœur, par exemple, d'un dialogue euro-arabe, Europe et pays arabes du Proche-Orient?
Oui, parce que chacun des deux pays se voyait un peu comme un élément central de sa propre région. Donc il y a eu cette idée de partenariat euro-arabe qui est présente chez Georges Pompidou en particulier, qui n'a pas très bien fonctionné parce que la politique française envers la Syrie dans les années 90-2000 était jugée par les Européens comme trop complaisante, celle de Jacques Chirac. Donc il n'y a pas eu de dynamique vraiment impulsée côté européen pour être le pilier de ce dialogue euro-arabe. Mais c'est vrai que c'était une des idées, un des piliers de la relation bilatérale.
Et alors la France va s'investir énormément en Syrie, par exemple en décidant de former des élites. Et donc la France implante une espèce d'équivalent de l'ENA, qui s'appelle l'INA, en Syrie. Ça, c'est, par exemple, ça, c'est un élément fort d'une relation bilatérale et de cette relation franco-syrienne, Manon Nourtanous.
Oui, ça, c'était une séquence de coopération très importante. Alors, faite sur demande de Bachar al-Assad, qui venait d'arriver au pouvoir, qui rencontre Jacques Chirac en disant qu'il n'a pas la maîtrise totale de son administration, qu'il sent qu'il y a des dysfonctionnements. Et donc, il demande l'expertise française sur ces questions-là. Et ce partenariat va aboutir à la création donc de l'Institut National d'Administration, qui est un institut syrien, mais où il y a un coopérant français qui importe une partie de l'expérience française en termes de formation de la haute administration. Tous ceux qui ont été formés dans ce cadre-là vont être relativement isolés, en fin de compte, dans le système syrien.
Alors, pourquoi, finalement? Parce que dans votre livre, vous dites que c'est des Alaouites qui utilisent cette école, finalement, mais on les soupçonne, finalement, d'avoir été formés à la française. Pourquoi est-ce qu'ils sont isolés
Alors, les Alaouites vont utiliser l'école comme ils ont utilisé l'armée comme instrument de promotion sociale aussi, mais pas uniquement. Enfin, il y a d'autres, d'autres types de populations vont se saisir aussi de cet enjeu-là. Je crois que ça allait un peu trop loin dans le schéma de réforme qu'envisageait Bachar al-Assad. Et puis, ça a correspondu au moment où la région se crispait autour de la guerre en Irak. Et donc, le système interne s'est à nouveau verrouillé et il n'était pas question d'intégrer ces nouveaux éléments formés autrement dans des administrations majeures comme le ministère de la Défense ou des Affaires étrangères. Donc, ils ont été isolés. Ça a été une bulle de hauts fonctionnaires qui n'a pas été intégré, qui n'a pas été utilisé pour réformer le système.
Cet institut existe toujours ou il est...
Il existe toujours.
D'accord. Et donc, il forme toujours des gens, mais de manière un peu marginale, finalement
ou... Il y a eu plusieurs promotions. Là, il faudrait voir pendant la crise quelle a été l'issue. Mais je sais qu'il fonctionne toujours sans la présence des coopérants français cette fois-ci.
Alors, Manon Nortanous, dans cette relation franco-syrienne, il y a un point de friction évident et récurrent, c'est la présence militaire de la Syrie au Liban, c'est-à-dire cette espèce de mainmise extrêmement forte. Ça, c'est quelque chose qui revient systématiquement dans cette relation franco-syrienne, cette présence syrienne au Liban, ça pose problème aux autorités françaises ?
Alors oui et non, ça dépend des séquences. Ce qui est évident, c'est que le Liban est central dans la vision que la France a du Moyen-Orient. En partie aussi pour l'imaginaire d'un Liban accueillant, chrétien, un Liban vert qu'ils opposent à une Syrie rouge, nationaliste arabe, socialiste, etc. Donc il faut défendre le Liban. Simplement, à plusieurs périodes, on a considéré que la présence syrienne était finalement acceptable, tolérable, permettait une certaine stabilité. Donc ce qui explique aussi la fluctuation des relations franco-syriennes. Mitterrand a eu ces deux phases, Jacques Chirac a eu ces deux phases, en ouvrant à la Syrie, en considérant qu'on pouvait accepter sa présence au Liban puisqu'elle était stabilisatrice à condition qu'elle ne se matérialise pas par une pression sur Rafik Hariri en particulier, sur son allié libanais. Et puis ensuite, un changement à 180 degrés en 2005 où on considère que la présence syrienne est intolérable, ce qui va d'ailleurs aboutir au retrait des forces syriennes en 2005.
Alors, il se passe quelque chose en 2005 dont on va parler, qui est l'assassinat de Rafik Hariri, mais préalablement, il y a eu une forme d'amitié très forte entre Jacques Chirac et Rafik Hariri, que vous racontez dans votre ouvrage. C'est quelque chose qui a été très structurant aussi dans la vision chiracienne et diplomatique de Chirac, cette influence, au fond, de Rafik Hariri dans la lecture de la situation libano-syrienne, Manon Nortanous.
Oui, ça a été très structurant. C'est une amitié longue qui est construite depuis que Jacques Chirac est maire de Paris et Rafik Hariri fait son ascension politique au même moment. C'était avant un homme d'affaires. Jacques Chirac parle de lui comme de mon frère. Vraisemblablement, c'était plus qu'une amitié, c'était une relation très forte. Il avait toute confiance en son analyse sur le Moyen-Orient, donc il se fiait assez à ce que pouvait lui dire cet interlocuteur libanais qui a ensuite été Premier ministre au Liban. Je crois que c'est pas l'unique clé de lecture des relations franco-syriennes, mais ça a été un facteur d'amplification. Donc quand Jacques Chirac a décidé de rompre avec la Syrie, bien sûr, il y avait cette cause des pressions syriennes sur Rafik Hariri, mais c'était aussi pour lui l'intérêt de la France. Mais ça a décuplé sans doute sa réaction par rapport à la Syrie.
Oui, s'il a perdu son frère, entre guillemets, spirituel dans l'attentat, c'est extrêmement marquant dans son opposition ensuite à la Syrie.
Ça a été vraisemblablement un traumatisme pour le président français et ça a engendré ensuite 2 ans de pression sur la Syrie qui ont été considérables.
Et qui aboutissent, alors du coup vous montrez dans votre ouvrage comment la France va œuvrer pour le vote au Conseil de sécurité de l'ONU de la résolution 1559 qui demande quoi le départ de la Syrie et le démantèlement, je crois, des milices libanaises, enfin quelque chose comme ça.
Oui, alors c'est une résolution qui vise à la fois la Syrie et le Hezbollah, mais sans les nommer ni l'un ni l'autre pour obtenir le vote de la majorité du Conseil de sécurité. La Syrie, c'était le vœu français, donc on demande le retrait de toutes les forces étrangères du Liban. Israël s'étant retiré en 2000, ça ne concerne plus que la Syrie. Et deuxième volet, c'est le volet que souhaitaient les Américains. On demande le désarmement des milices, ce qui concerne là en particulier le Hezbollah, mais pas uniquement.
La Syrie se retire, Manon Nortanous, à ce moment-là. C'est-à-dire qu'il y a l'effort diplomatique français paye et la situation change du jour au lendemain avec un retrait, je crois, de 15 000. Il y avait 15 000 soldats basés en Syrie. Ça, c'est une rupture dans la relation franco-syrienne et en même temps, c'est un changement local très important, ce retrait du Liban, de la Syrie.
Oui, alors elle ne se retire pas après la résolution, parce qu'entre-temps, il y a eu l'assassinat de Rafik Hariri. Donc c'est à l'issue de 6 mois de montée en tension que les forces syriennes se retirent. Et puis d'un encadrement par l'ONU, la France est à la manœuvre, mais c'est plus elle qui est en première ligne. C'est un changement majeur. La Syrie était présente au Liban depuis 1976. Maintenant, elle garde une forme de présence par les services, par aussi la porosité entre les deux peuples, entre les deux pays, qui ne cesse pas évidemment en 2005. Mais ça a été un souffle de liberté pour le Liban à ce moment-là.
Alors Manon Nortanous, qu'est-ce que votre recherche vous aura fait finalement découvrir sur ces acteurs de l'ombre que sont les diplomates ?
Alors, ça a été un travail très intéressant et en particulier, je disais, de les rencontrer et de lire leurs écrits. J'ai trouvé qu'ils avaient un intérêt réel pour cette région. Bon, je m'y attendais. Avec parfois même en entretien une vraie douleur sur les événements actuels, puisqu'on arrivait souvent à en parler en fin d'entretien. J'ai trouvé qu'il y avait une expertise réelle et parfois une plume très intéressante dans la manière dont ils décrivaient leurs interlocuteurs. J'ai en souvenir un télégramme qui décrivait Hafez al-Assad comme une araignée au fond de sa grotte, qui ne rencontrait jamais de Syriens, qui ne rencontrait que ses conseillers, avec beaucoup de finesse, mais pas pour condamner le régime en tant que tel, mais pour dire avec qui on traitait. Et ce qui m'a frappé aussi, c'est... En fait, au-delà des nominations parfois très politiques des ambassadeurs sur place, une très grande continuité dans la politique qu'on pouvait mener envers la Syrie, dans les enjeux, dans la manière dont ils étaient présentés. Ce qui n'empêchait pas ces diplomates parfois d'avoir l'impression d'innover, de mener une nouvelle politique, parce qu'on est toujours dans des phases de rupture et de relance. Donc s'ils étaient acteurs de la relance, ils avaient l'impression d'être dans l'innovation, alors qu'on reproduisait des schémas antérieurs.
Alors sans les accabler, parce qu'ils ont fait un travail très important que vous avez restitué, il y a certains moments, la situation étant compliquée, des analyses pas très bonnes, des formes d'aveuglement, notamment sur le régime de Bachar al-Assad, où on attend, on espère, on croit en une libéralisation du régime, en une démocratisation, en une modernisation. Il y aura peut-être une modernisation, mais sans démocratisation. Là, il y a des formes d'aveuglement, parce qu'au fond, tous les événements montrent qu'on ne va pas dans cette direction, et malgré ça, la diplomatie française s'accroche à l'idée que la Syrie ne peut que se démocratiser. Manon Nortanous.
Oui, alors il y a un aveuglement, 2001-2002, qui est certain. Toutefois, les éléments de blocage sont assez vite perçus et décrits dans les télégrammes. Ce qu'on voit par contre, c'est que les diplomates ne tranchent pas. Donc ils font un rapport, par exemple, sur les élections législatives de 2003, en disant toutes les constantes d'un régime qui n'évolue pas, qui évidemment reste fermé. Et puis, d'un autre côté, quelques signes, plus de femmes, un certain renouvellement des parlementaires. Donc, en donnant tous ces éléments à l'exécutif, qui, lui, décide de faire pencher la balance d'un côté ou de l'autre. Donc les signes de blocage sont relevés malgré tout. Mais c'est vrai que ça n'engendre pas tout de suite une rupture des relations ou une augmentation des pressions sur ce pays.
Parce qu'à vous lire, on se dit, mais pourquoi, diable, la France s'accroche-t-elle à cette relation-là qui, à certains moments, est payante, mais qui, globalement, est quand même une relation très compliquée, avec un régime, par moments, peu fréquentable. Et 2011 viendra révéler ça.
Oui, je crois qu'en fait, petit à petit, sans doute depuis François Mitterrand, on s'est convaincu que plus on isolait la Syrie, plus elle était nuisible pour nos intérêts. Il y a eu des épisodes très violents dans la relation franco-syrienne dans les années 80. Et donc, cette idée est constante, encore une fois, que réintégrer la Syrie sur la scène internationale permettra de diminuer sa nuisance, en particulier au Liban. Et à l'inverse, l'isoler peut avoir des conséquences tout à fait néfastes. Donc, on revient constamment vers le régime syrien, jusqu'à 2011, qui est véritablement une autre séquence.
Donc c'est vraiment l'idée de dire, voilà, on ne va pas rester dans une relation bilatérale, on profite de cette relation pour faire revenir la Syrie dans le jeu, et comme ça, elle sera peut-être moins incontrôlable.
C'est ça, et jouer peut-être plus favorablement dans la région.
Merci beaucoup, Manon Nortanous, de votre présence. Cette émission s'achève. Je rappelle le titre de votre ouvrage, Chirac, Assad et les autres, les relations franco-syriennes depuis 1946. C'est sorti aux Presses universitaires de France en 2017. Merci à Emmanuel Demisco à la technique. Cette émission sera en podcast très bientôt sur le site de Fréquence Protestante. On se retrouve dans 2 semaines pour une nouvelle émission. À bientôt.